Merci Frédéric Barrère, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Et nous, on est ravis de vous retrouver après une si longue absence. Alors bonjour à tous, et pour démarrer cette nouvelle saison, alors que la Covid-19 continue de perturber notre quotidien, eh bien nous allons vous proposer une enquête sur les collapsologues et les survivalistes. Les premiers théorisent l'effondrement du monde tel qu'il existe aujourd'hui, les seconds se préparent concrètement à affronter ce supposé effondrement. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Alors nous allons voir avec vous qui ils sont, ces collapsologues et ces survivalistes, ce qu'ils pensent et comment ils s'organisent concrètement.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Nous assistons bel et bien à l'effondrement de notre aveuglement, à la fin de ces certitudes confortables qui régnaient il y a 4 mois encore. Quand viendra le temps, proche du déclin géologique du pétrole, puis la contraction de plus en plus prononcée des transports
aériens. Vous avez sans doute reconnu une des lettres d'intérieur qu'Augustin Trapenard nous a lues sur France Inter pendant le confinement. Alors celle-ci avait été écrite par l'écrivaine Fred Vargas et elle prédit l'effondrement de notre modèle productiviste. Il est vrai qu'avec la crise de la Covid-19, l'économie a considérablement ralenti et cela a apporté du grain à moudre à ceux qu'on appelle les collapsologue. Alors Philippe Reltien, avant toute chose, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on entend par collapsologue ?
Alors ça vient de l'anglais, collapse, qui veut dire s'effondrer, et les collapsologues, eh bien, ils défendent en France ce qu'on appelle la théorie de l'effondrisme. Quelques personnes ont plus particulièrement théorisé cet effondrisme. Le premier, c'est Pablo Servigne, un agronome qui a notamment publié « Comment tout peut s'effondrer ». Et pour Secret d'Info, il nous dit quels enseignements il tire, lui, de la période actuelle.
Ça nous a montré deux choses paradoxales. La première, c'est que, en fait, on peut arrêter la méga-machine. Et on a vu à quel point ça faisait du bien aux écosystèmes, aux vivants, aux sauvages, aux animaux, etc., qui pouvaient un peu renaître et se régénérer. Ceci dit, l'économie s'est pas totalement arrêtée et on a vu que l'effondrement du PIB, des économies, de certaines économies, hein, pas toutes, mais par exemple la restauration, le tourisme, le transport, etc., a permis un recul, certes significatif, des émissions de gaz à effet de serre, mais pas du tout suffisant. Donc on voit bien que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ouais, mauvaise nouvelle parce que pour de nombreux collapsologues, Philippe, le risque majeur, ce n'est pas forcément un virus. Le risque majeur, il s'appelle toujours le changement climatique.
Oui, et c'est un autre collapsologue très connu qui l'explique bien. C'est l'ancien ministre de l'Environnement, le mathématicien Yves Cochet, qui lui a publié son livre qui s'appelle « Devant l'effondrement », un effondrement qu'il juge inéluctable.
Une partie de l'humanité, disons à peu près 1,5 milliard, 2 milliards de personnes, genre en gros les gens de l'OCDE ou de l'Occident, se sont dit maintenant on va jouir comme des porcs et on va produire, extraire de la terre toutes les richesses et on va être super heureux parce qu'on aura 3 Ferrari, on aura 5 téléphones mobiles et 5 écrans plats. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 1950 jusqu'à 2020. Eh bien on n'arrête pas de faire toujours plus de marchés, plus de technologies, etc. Eh bien la terre va finir par se venger. Ça va être ce qu'on peut appeler parfois de manière métaphorique la vengeance de Gaïa. La Terre n'en peut plus, vraiment le système Terre. Et ce que voient nos compatriotes maintenant, c'est que ce n'est pas les écolos qui ont fait ça, c'est le système Terre lui-même qui se défend.
C'est le système Terre qui se défend. C'est donc ce que pensent les collapsologues.
Effectivement, et ce qui est redouté peut prendre 2 formes qui peuvent se rejoindre. Certains pensent que les inégalités vont finir par générer une crise qui pourrait provoquer des émeutes, des famines, des pillages. Et de l'autre, ce sont les atteintes à l'environnement qui pourraient provoquer un accident nucléaire ou d'éventuelles catastrophes naturelles. Écoutez, Lamia Essemlali, militante de l'association Sea Shepherd, très engagée contre les baleiniers.
Les scientifiques des Nations Unies prédisent que d'ici à 2048, on sera face à un effondrement mondial des pêcheries commerciales. Ce que ça veut dire concrètement, c'est la mort de l'océan. C'est la mort de l'océan. La mort de l'océan, c'est la fin de notre civilisation. On ne survivra pas sur cette planète avec un océan mort. Si on ne sauve pas l'océan, on mourra avec lui.
On mourra avec lui et ce sentiment que l'avenir est de plus en plus sombre, il serait donc de plus en plus nombreux à le partager.
Oui, alors là encore, attention, les personnes qui se disent collapsologues ne sont qu'une minorité de la population. Mais l'idée que l'avenir est de plus en plus sombre, elle, semble maintenant largement partagée. Voici ce qu'en pense Bertrand Vidal. Il est sociologue, il constate que notre confiance en l'avenir en a pris un sacré coup.
Qui que ce soit, en fait, quand on lui demande de quoi sera fait l'avenir, comment va-t-on vivre en 2030, 2040, 2050, on va nous parler d'épidémies, de catastrophes écologiques, de catastrophes économiques, de flux migratoires impossibles à arrêter, etc., de réchauffement climatique et autres. Si on posait cette même question il y a une cinquantaine d'années, voire une centaine d'années, les réponses étaient totalement différentes. On nous parlait de voitures volantes, d'énergie propre, d'hommes immortels, etc., etc. Je pense qu'en fait, le survivalisme, la pensée survivaliste, l'imaginaire de la fin du monde, qui lui est lié, est en train de contaminer nos esprits et on est en train de passer de l'idéologie du progrès à celle du regret avec son cortège de nostalgie et de c'était mieux avant.
Oui, et cette idéologie du regret, Philippe, on a pu la mesurer récemment.
Oui, en effet, le CRED, le Centre de Recherche en Économie et en Droit de l'Université Paris 2, a réalisé en fin d'année dernière une étude qui confirme cette tendance. Bruno Defin est le directeur du CRED et il est convaincu que le confinement et la crise de la Covid-19 ont encore aggravé ce pessimisme.
Les tenants de ces théories, survivalistes, collapsologues, sortent renforcés de la pandémie, incontestablement. 72,4% des Français se déclarent plutôt d'accord avec l'idée collapsologique selon laquelle tout pourrait s'effondrer.
C'est 2 sur 3.
2 sur 3, ce qui représente plusieurs dizaines de millions de personnes, si on traduit ce pourcentage au regard des effectifs de la population française.
Ouais, ça fait quand même du monde, hein. Et chez ces pessimistes, qui semblent donc être de plus en plus nombreux, Philippe, certains développeraient même une nouvelle pathologie.
Oui, et on appelle cela l'éco-anxiété.
Alors, éco-anxiété, on va préciser.
C'est le fait d'être angoissé devant l'avenir, notamment parce qu'on s'inquiète de l'évolution de la planète. Ça provoque des symptômes du type crise d'angoisse ou une peur de manquer.
Et ça touche beaucoup de monde, ça ?
Eh bien, c'est difficile à quantifier, mais ce que remarque Antoine Pellissolo, qui est psychiatre à l'hôpital Mondor, c'est que cela concerne surtout les jeunes.
L'éco-anxiété, c'est vraiment souvent des jeunes qui se posent vraiment beaucoup de questions sur l'avenir, sur la base de, vous voyez, la température augmente tous les ans, il y a moins en moins d'espèces. Et donc, c'est quelle sera ma vie dans 20 ans, dans 30 ans? Et notamment vis-à-vis de ma propre famille. Et il y a vraiment toujours cette question de, est-ce qu'il faut encore faire des enfants? Enfin, c'est ce genre de questionnement qui est de l'anxiété, qui est nourri effectivement de l'incertitude, parce que, par définition, on n'a quand même pas une boule de cristal pour prévoir l'avenir. C'est rarement Enfin, le cran au-dessus, c'est les survivalistes, où là, on a passé le cap de se dire, bon, de toute façon, c'est foutu et il faut préparer un autre monde.
Le cran au-dessus, c'est les survivalistes, c'est-à-dire ?
Alors là, on ne parle plus des collapsologues qui théorisent l'effondrement. On parle bien des survivalistes, c'est-à-dire d'une minorité de gens qui s'organisent concrètement et qui s'entraînent à la survie régulièrement.
Concrètement, comment ils font ?
Eh bien, ils vont voir, par exemple, Frédéric Cuvelier. Lui a fondé sa société Survivor Attitude. Il organise des stages de survie, il place ses stagiaires devant tous les cas de figure, y compris celui où il n'y aurait plus de policiers, plus d'État pour protéger la population.
S'il y a une crise majeure, l'État ne pourra pas subvenir à nos besoins, il n'y a pas assez de force de l'ordre. Et quand bien même tout ce qu'il y a sera évidemment projeté dans les endroits stratégiques. Défendre qui ? L'État, et défendre très certainement les ports. Tout le reste, ce sera livré à eux-mêmes, faut pas rêver.
Y compris les supermarchés.
Et alors, ils seront pas livrés à eux-mêmes, ils seront livrés aux autres, je pense. Parce que vous grattez un petit peu chez certains survivalistes, que nous-mêmes on reçoit, la première chose qu'ils vous disent, c'est « s'il y a quoi que ce soit, je vais dévaliser le magasin à côté ».
Oui, ça c'est pour sa théorie. Bon, cela dit, ce n'est qu'une théorie.
Heureusement, mais il n'est pas le seul à penser comme ça. Écoutez par exemple Alexandre Boisson. C'est un ancien membre du GSPR, le Groupement de Protection des Présidents de la République. Il a récemment écrit lui aussi son livre « Face à l'effondrement, si j'étais maire ». Et lui est convaincu qu'en cas de crise majeure, les habitants se mettraient à fuir la capitale, car il n'y aurait plus assez à manger.
Des millions d'individus partiraient avec l'idée qu'en campagne, ils vont pouvoir mieux se nourrir qu'à Paris. Paris, c'est 3 jours de résilience alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience alimentaire ? C'est la capacité à se nourrir de produits locaux. Il n'y a pas de résilience alimentaire à Paris.
Vous allez dire, personne n'a de conserve stockée dans sa cave.
Oui, mais c'est tellement infinitésimal que celui qui a ça, il n'a vraiment pas intérêt à le dire. Parce que quand il y a des millions de ventres affamés, il ne faut surtout rien dire. Paris, aujourd'hui, 3 jours de résilience alimentaire, eh ben, on sait plus comment faire. Le Parisien va se dire, mais où est-ce que je vais aller manger? Ben, il pense naturellement aller en campagne.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que la collapsologie gagne du terrain, voyons de plus près qui sont ceux qu'on appelle les survivalistes, Philippe Reltien. Et d'abord, comment est-ce qu'on pourrait les définir ?
Eh bien, pour faire simple, il y a 2 grandes écoles qui se situent quelque part entre Mad Max et Pocahontas, ou entre, si vous préférez, l'extrême droite et l'extrême gauche, même si cette vision est forcément réductrice.
Alors, qui est Mad Max et qui est Pocahontas ?
Eh bien, vous avez d'un côté les individualistes, je dirais forcenés, ceux qui se préparent à se sauver eux-mêmes avec leur famille contre les autres. Eux pensent que les forts doivent sacrifier les plus faibles, et ils vous diront qu'ils sont prêts à prendre les armes si nécessaire.
Alors ça, c'est pour la première catégorie, hein, on pourrait dire, Philippe. Et puis, vous avez ceux qui pensent au contraire que c'est par la solidarité entre les individus qu'on pourra s'en sortir.
En effet, et eux rejettent totalement les armes. Ils plaident au contraire pour l'apparition de nouvelles formes de solidarité locale. Écoutez l'ancien policier Guillaume Morel, qui est l'auteur de Protégor, un guide de survie qui fait référence dans le milieu. Il connaît bien le sujet et il nous en dit plus sur cette typologie des survivalistes.
Certaines personnes sont persuadées que, selon le type d'effondrement, le plus gros risque seront les autres êtres humains. Et donc il va falloir se défendre, d'où les armes à feu, la sécurité, etc. D'autres personnes sont plus dans le sujet de la communauté et de se dire... Pour pouvoir survivre, il va falloir qu'on recrée notre propre communauté, notre groupe de personnes, pour pouvoir vivre entre nous. Et finalement, le sujet sécurité dans tout ça sera beaucoup plus faible que dans l'autre famille des survivalistes qui, eux, sont plutôt dans l'approche un peu guerrière du survivalisme.
Et dans cette approche un peu guerrière, alors, on aurait qui, Philippe ?
Eh bien, par exemple, Piero San Giorgio. C'est une figure de l'extrême droite identitaire qui habite en Suisse. Lui pense que le danger peut venir d'une vague migratoire. Il est très contesté, mais certains officiels prennent ses thèses au sérieux. Ainsi, fin 2016, le canton suisse du Valais lui a demandé très officiellement de plancher sur l'hypothèse d'une invasion soudaine de 40 000 migrants arrivant d'Italie. Et voilà ce qu'il a fait.
Nous avons commencé à faire la liste des écoles, des stades, de tout ce qu'on veut, pour essayer de dire, ben voilà. Ensuite, on a fait la liste des quelles sont les ressources alimentaires, les couvertures, etc. qu'on a. Ensuite, on a regardé les communautés déjà existantes d'autres pays, donc du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. Et est-ce que ces communautés pourraient nous servir d'intermédiaires, déjà pour des traductions, pour des interprètes, mais aussi pour voir comment on peut observer chez l'habitant des gens qui pourraient arriver, etc.
Observer des gens, c'est-à-dire ?
Eh bien, lui proposait d'utiliser des Suisses issus de l'immigration qui parlent la langue des migrants pour les héberger et aussi mieux les surveiller.
Et son rapport, il a débouché sur quoi ?
Eh bien, sur un gros scandale. Le canton du Valais s'est finalement passé de ses services.
Bon, donc lui, il appartient, on l'a compris, à la première catégorie des survivalistes, ceux qu'on va appeler les individualistes. Et la deuxième, donc ?
Eh bien, la deuxième, c'est plutôt celle d'Yves Cochet, qu'on entendait tout à l'heure. Lui plaide au contraire pour des communautés locales avec de nouvelles solidarités. Il est d'ailleurs passé aux travaux pratiques en Bretagne avec un projet d'éco-village où l'on utilise des chevaux de trait. Car il est convaincu que c'est comme ça qu'on pourra répondre à un effondrement.
La solution n'est pas dans le repli individuel dans un bunker ou je ne sais quoi. Ça marchera pas. Ça marchera 2 ou 3 jours de plus que les autres. Mais c'est dans la démocratie locale, c'est-à-dire faire ce que j'appelle, moi, des biotopes de guérison sociale locale, des écolieux, des écovillages. Et ça permet localement de construire des démocraties où les gens sont solidaires. Puisque moi, mon mot d'ordre, ça sera localement qu'il faudra vivre. Votre groupe Facebook en 2035, il ne vous servira à rien. Il n'y aura plus de Facebook. Et donc, c'est localement, avec 50 ou 500 000 personnes, eh bien, c'est s'entraider ou s'entretuer.
Ouais, s'entraider ou s'entretuer, et lui plaide donc plutôt pour qu'on s'entraide. Mais on a une idée précise du nombre de survivalistes qu'il y a en France ?
Alors, précisément pas. Mais on a quand même des indicateurs, parce que les deux écoles sont très présentes sur Facebook et sur YouTube. Écoutez Cyprien Tasset, un sociologue de l'école des hautes études en sciences sociales. Il étudie cette mouvance en l'observant sur Internet. Il a donc une petite idée de ce qu'elle représente.
Le dernier chiffre que j'ai lu, c'est 330 000 pour certaines vidéos de survivalistes. Et on est sur des ordres de grandeur assez comparables pour les grandes vidéos des porte-paroles de l'idée d'effondrement. Donc, au sens le plus large, oui, c'est une audience qui peut se compter en centaines de milliers. Ensuite, il y a les chiffres des membres des réseaux sociaux. Et là, Transition 2030 est en train d'atteindre 20 000 membres en ce moment sur Facebook. Ensuite, il y a une série de groupes un peu plus petits qui vont de quelques centaines à plusieurs milliers.
Ouais, donc ils sont quand même assez peu nombreux, hein. Mais ces survivalistes, ils ne font pas que s'échanger des trucs sur Internet. Ils vivent aussi parfois comme s'ils étaient déjà en situation de survie.
Oui, vous en avez qui travaillent régulièrement leur résistance à la faim et à la soif et au froid, chaque week-end pratiquement. C'est ce que fait Megan, que j'ai rencontrée à Savines-le-Lac, près de Gap. Elle passe beaucoup de temps en montagne dans des conditions très précaires.
Je passe trois quarts de mon temps en forêt et le reste du temps à la maison. J'ai mes zones à moi, de confort. J'en ai une ou deux pour le plaisir parce que je les ai créées il y a longtemps et que je les garde. Mais sinon, voilà, comme on dit, comme on apprend nos stagiaires, juste avec une bâche et un bon duvet, il n'y a pas besoin d'avoir un abri en dur. Et on peut tenir très longtemps.
Mais quand il fait moins 12, parce que ça arrive au mois de février, là, vous allez avoir de la neige, il va faire moins 12. Pareil, même langage ?
Le même langage. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon matériel.
Oui, donc elle passe du temps toute seule dans la nature. Maintenant, d'autres, eux, se préparent à vivre confinés.
Oui, encore faut-il avoir les moyens. C'est le cas d'Enzo Petron, qui dirige Amesis, une société qui construit des bunkers de 26 mètres carrés, loués 50 000 euros. Il en vend à toutes sortes de clients, et en bon survivaliste qu'il est, il s'est lui-même organisé pour tenir en cas de coup dur.
Alors moi-même, j'ai deux bunkers. Alors, j'en ai deux. J'en ai un en Suisse et un en France. J'ai ma boîte de pilules dans la poche, pilules diode, j'ai mon masque dans la voiture, j'ai mon détecteur de rayonnement, pas loin toujours.
C'est un abri souterrain ou c'est une cave? Qu'est-ce que c'est?
Oui, non, c'est un abri souterrain, bien sûr. On n'attend pas le dernier moment, parce que vous savez, ça peut aller très vite. Hein. Vous voyez, tremblement de terre, sans préavis, sans rien, on peut se retrouver d'ici 5 minutes, il peut y avoir une catastrophe. Donc voilà, il faut. Un vrai survivaliste se tient toujours prêt.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, continuons d'explorer la mouvance des survivalistes, Philippe Reltien. On va maintenant voir que leur montée en puissance correspond au développement d'un nouveau marché.
Oui, on évoquait tout à l'heure des stages de survie. Eh bien, on en voit de plus en plus depuis quelques années, un peu sur le mode de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta. Et comme par hasard, le boom de cette activité date de 8 ans, se souvient Frédéric Cuvelier, qui lui aussi organise ce genre de séjour.
Faut pas oublier une période qui a été une période très charnière sur la survie, qui était 2012. 2012, c'était le calendrier Maya, vous vous rappelez de ça? C'était la fin du monde, normalement. Tout le monde avait peur que les Mayas aient raison. Et donc, j'ai des émissions de télé qui m'ont offert de sacrées sommes pour être avec eux dans la nature. Mon carnet a explosé complètement sur l'année 2012.
Son carnet a explosé, mais qu'est-ce qu'il propose concrètement, Frédéric Cuvelier ?
Des stages de dépassement de soi. Et ça commence toujours par ne plus manger, une diète stricte pendant 48 heures. Et ensuite, s'ils ont choisi la survie urbaine, les stagiaires doivent se glisser dans la peau d'un SDF.
On leur donne un duvet, leur carte d'identité, un peu d'argent pour être en règle avec la loi, et le téléphone pour nous appeler s'il y a quoi que ce soit, et on reste dans les parages, et on les laisse en ville. Alors, on les laisse en ville ou à Gap ou à Embrun, donc la sécurité, on est quand même tranquille ici dans les Hautes-Alpes. Mais ça leur permet de prendre confiance, et ils doivent vivre comme un clochard, comme un naufragé de la vie, comme un migrant.
Ouais, donc là, on ne reste quand même pas très loin de chez soi. Maintenant, il y en a qui vont beaucoup plus loin.
En effet, Nomade Aventure, par exemple, proposait encore avant l'épidémie de Covid des stages de survie dans l'Himalaya, en partenariat avec Panthère, une société dirigée par un tireur à l'arc qui s'appelle Denis Tribaudot. Il est instructeur de survie, chevronné, et il emmène sa clientèle exclusive vers, disons, des territoires inaccessibles.
Les gens me font un chèque et puis après je les emmène un peu où je veux sur la planète, vivre une expérience humaine, vivre une aventure là où ils n'auraient jamais été. Et puis on va à la rencontre d'un territoire, d'un biotope bien particulier.
Oui, le dernier c'était l'Inde du Nord-Est.
Ouais, dans le Meghalaya, c'est au-dessus du Bangladesh. Et ben on a bu de l'eau, des torrents, etc. Parce que le Meghalaya c'est une région très préservée. C'est le seul stage où le vol est compris. On est en partenariat avec une agence de voyage. On ne vend que le stage de survie.
Oui, parce que dans l'Himalaya, c'est 17 000 euros les 21 jours.
Ouais, mais alors ça, ouais, c'est, C'est le must du must.
C'est là, pas c'est... à la portée de tout le monde.
Ah non.
Ouais, effectivement, c'est un peu le survivalisme pour les riches là. Mais on trouve en fait toutes sortes de profils chez ceux qui participent à ces stages.
Oui, en effet, du plus riche au plus modeste, si l'on en croit Denis Tribodeau, tous les milieux sociaux participent.
Dans un groupe, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez avoir un colonel qui a fait la guerre, et puis un perdreau de l'année, un petit jeune de 18 ans qui a ses vérités toutes faites mais qui connaît rien de la vie, une maman qui a accouché 3 fois, et croyez-moi, elle a de l'expérience, quand on a fait 3 gamins, on sait ce que c'est que la douleur, une mamie tréqueuse, 2 couples urbains, et puis un paysan. Ben voilà, vous avez tout ça, et il faut faire avec. Et chacun a son expérience, chacun a son passé, chacun met son curseur du moment où tout va basculer, où ils vont plus maîtriser, où ils vont plus connaître, où ils vont avoir peur de mourir, et chacun met dans un pot commun tout ça, et on parle beaucoup, et le but c'est que tout le monde trouve sa place dans le collectif.
Voilà, donc ça c'est pour les stages qui se développent. Maintenant, l'économie du survivalisme, Philippe, ça ne se limite pas à ça.
Non, vous avez toute une économie qui s'est développée autour de l'équipement, par exemple, qu'on peut acheter en ligne sur une centaine de sites et à petit prix. On voit ainsi se vendre des matériels qui se vendaient assez peu jusqu'ici, remarque encore l'organisateur de stage Frédéric Cuvelier.
On voit de plus en plus de bâches, parce que... Dans les techniques de survie, on enseigne à faire un abri avec une bâche. Donc, il y a de plus en plus de bâches. Les équipementiers bossent de plus en plus sur du matos dit survie. Mais c'est du matos pour bivouaquer, si on regarde bien. Avant, on appelait ça le camping sauvage. Enfin, moi, je faisais du camping sauvage tout le temps.
C'est du scoutisme.
Du scoutisme, du trappeur, on l'appelle comme on veut, mais on a tous fait ça, étant jeune.
Ouais, donc rien de vraiment nouveau sous le soleil, hein, sur le fond. En fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est plus les objets qu'on utilise.
Oui, en effet, des objets de plus en plus sophistiqués qui utilisent les nouvelles technologies pour permettre aux randonneurs d'être plus autonomes, par exemple. Franck Douville dirige la société de vente en ligne WellKit. Il fournit ce type de matériel et voit la demande de la clientèle évoluer.
Il se vend, et ça c'est relativement nouveau, des panneaux solaires pliables, qu'on peut adapter par exemple sur son sac à dos quand on marche, et qui permettent de recharger sa batterie, alors pour un téléphone, pour une petite lumière ou quelque chose comme ça, tout en marchant. Assez pratique, ça pèse pas très lourd, ça marche bien, ça marche même quand il y a un temps couvert. Ce sont des objets que nous vendions avant et que maintenant nous vendons plus, parce qu'avant on ne les vendait que aux militaires, éventuellement aux forces de l'ordre, et maintenant on en vend à des civils. Voilà.
Et vous avez dit multiplié par 2.
Oui, par 2 ou par 3, oui.
Depuis 2015.
Voilà, c'est ça.
Ouais, donc le survivalisme génère de nouvelles activités et on voit que le marché s'adapte à ces nouveaux besoins. On retrouve d'ailleurs dans ce secteur le même phénomène que dans d'autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire que des sociétés donnent du matériel à ceux qui peuvent en faire la promo.
Vous avez des marques qui sponsorisent des stages de survie. L'instructeur Denis Tribodeau fait partie de ceux qui bénéficient de ce système.
Alors moi j'ai Célire qui vend et qui propose à la location des téléphones satellites parce que j'ai dans des régions où la communication ne passe pas. Donc
c'est une boîte française.
C'est une boîte française, ouais. Après j'ai les chaussures. Alors je teste des chaussures pour AX, c'est une marque allemande, des chaussures qui équipent les pompiers, les militaires, des gens comme ça. Ils m'ont dit bah si vous voulez on vous file des paires de godasses et puis vous les matraquez. Alors j'ai des montres aussi, voilà.
Montres.
Donc
Suisse.
Avec, limite ils me demandent de les casser quoi. Et puis là dernièrement ben les tour opérateurs ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle activité, cette nouvelle façon de voyager tout compte fait.
Ouais, les tour opérateurs lorgnent sur les survivalistes maintenant. Il faut quand même faire attention, il faut le dire aussi, Philippe, parce que certains de ces enseignants en survivalisme sont plus ou moins sérieux.
En effet, parce qu'il s'agit d'une profession non réglementée, on trouve de tout. Il peut donc y avoir des accidents. Ainsi, au début du mois d'août, un jeune stagiaire parisien est mort empoisonné lors d'un exercice qui consistait, pour un groupe de 12, à cuisiner des carottes sauvages. Il pensait qu'elles étaient comestibles, sauf qu'il s'agissait d'une plante toxique de la famille de la ciguë. Et le coach n'a pas détecté l'erreur. Le responsable du stage, un ancien militaire du 3e RIMA, a été mis en examen pour faux, usage de faux, homicide et blessures involontaires et placé en détention provisoire.
Bon, nous voilà prévenus et on va s'interrompre d'ailleurs là-dessus pendant quelques instants. Mais restez avec nous dans une deuxième partie, nous allons voir comment certains se préparent, eux, à séjourner dans des abris anti-atomiques collectifs. I'm not afraid to Ça sonne très 60s avec des instruments acoustiques d'un côté, des voix profondes et réverbérées de l'autre. Ça s'appelle Hey Hey, tout simplement, et c'est extrait du dernier album du groupe américain Other Lives.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors après avoir dessiné les contours de ce qu'est la nouvelle économie du survivalisme, Philippe Reltien, bien on va maintenant parler du produit phare et peut-être d'ailleurs du produit le plus spectaculaire de ce marché en plein développement, c'est l'abri personnel.
Oui, et c'est l'idée d'avoir un refuge, tout simplement. Enzo Petron, qu'on a entendu tout à l'heure, a élargi sa clientèle. Il en vend à des banquiers aujourd'hui. Et il propose aussi des places à la location aux particuliers dans un abri qu'il a fait construire dans l'Essonne.
Nous avons un abri collectif sur Paris pour des gens qui souhaitent louer des places à l'année. Et en cas de problème, ils peuvent venir sans problème dans l'abri. Il y aura de la nourriture. Chacun a une place pour se reposer, tout ça. Donc il y a un lit, ils ont leur petit coin personnel. Le prix pour une place dans l'abri à Paris, dans l'abri collectif, est de 10 000 euros. Le contrat est de 5 ans. Donc ils peuvent rester même 5 ans à l'intérieur, il n'y a pas de souci.
Oui, on va préciser, Philippe, c'est 10 000 euros par an hein, pendant 5 ans. Bon, cela dit, il ressemble à quoi cet abri ?
Eh bien, imaginez une pièce en béton, sans fenêtre, avec un périscope pour voir en surface. À l'intérieur, car vous êtes enterré, vous avez une chambre avec des lits superposés, une petite table de travail, un écran pour ordinateur, et à côté un coin cuisine avec une petite pièce avec un WC. L'air ambiant est recyclé.
Bon, espérons qu'on n'aura jamais à y aller. Maintenant, il n'y a pas que le matériel qui se développe, Philippe. Le survivalisme a aussi investi le milieu de l'édition.
Oui, avec énormément de livres qui balayent très large. Des éditeurs vendent des ouvrages qui vous apprennent à vivre en autarcie, à construire vous-même une serre ou un caveau à légumes. La maison d'édition allemande Ulmer, par exemple, en publie 50 de ses livres par an, comme le confirme son directeur Antoine Isambert.
Nous, on a fait un livre sur sécher et déshydrater ces aliments, mais on a aussi un livre qui est un peu plus technique, qui est construire une cave naturelle, sans utiliser de réfrigérateur, donc sans consommer d'énergie, d'avoir un comportement plus vertueux écologiquement. C'est exactement le principe de la glacière du XVIIIe siècle, où on mettait de la glace pour servir du champagne.
Ouais, c'est un peu comme le camping sauvage qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'anciennes recettes qu'on remet au goût du jour, finalement. En tout cas, tout ça montre, une fois de plus, que le survivalisme doit conjuguer deux préoccupations. D'un côté, être en sécurité, et de l'autre, pouvoir se nourrir.
Oui, et derrière cette question de la nourriture au quotidien, il y a celle plus fondamentale de la souveraineté alimentaire. Sujet qui est d'actualité puisqu'on a manqué de certaines denrées comme des pâtes ou parfois de la farine lors du confinement. Pour s'alimenter, il faut faire des stocks. Or, selon Alexandre Boisson, l'ancien membre du service de protection des présidents de la République, on n'a rien prévu de tel. Il pense donc que ce sujet devrait être une priorité.
Christiane Lambert, donc la présidente de la FNSEA, a
tiré la sonnette d'alarme quand il y a eu le confinement. Elle expliquait qu'il n'y avait pas de stock stratégique d'État en termes alimentaires. Et ça, c'est très grave, puisque on a vu avec la crise des masques ce que ça pouvait donner de ne pas avoir de stock stratégique. Et l'alimentation serait encore plus violent en termes de conséquences. Donc il faut absolument que les cultures que nous avons, nous puissions les stocker, pour certaines les conserver, pour passer justement une problématique de 2 semaines sans supermarché.
Et cette idée donc de repenser notre souveraineté alimentaire, elle progresse.
En effet, puisqu'elle est évoquée maintenant dans les priorités affichées par l'État, au même titre que la souveraineté sanitaire. Et elle est promue par d'autres grands penseurs de la collapsologie, comme Pablo Servigne, même si lui pense qu'il faut voir plus loin que la question des stocks de nourriture.
Je trouve pas que se préparer soit une mauvaise chose en soi. Par exemple, avoir des stocks de nourriture chez soi pour 1 ou 2 mois ou même plus, ça permet quand même d'éviter un chaos social quand il y a des événements majeurs qui arrivent. Si on est préparé, on n'est plus un danger pour les autres. On sait bien réagir et on peut aller aider les autres. Ce qui est, disons, mauvais, entre guillemets, c'est pas de se préparer et de faire des stocks, c'est de se replier, de penser que la solution ou le chemin, c'est chacun pour soi et tout seul. Ça, c'est vraiment très toxique de penser ça, puisqu'on l'a bien vu pendant la pandémie. Ce qui sauve, c'est l'entraide. Il n'y a qu'une manière de traverser les crises, c'est l'entraide, c'est le fait social.
Et donc lui plaide pour un survivalisme bienveillant et altruiste. Maintenant, derrière cette vision bienveillante, certains, ou d'autres en tout cas, s'inquiètent des formes d'action que pourrait prendre une partie de cette mouvance.
Oui, alors les survivalistes actifs ne sont pas tous forcément des militants. Mais ce que craignent certains observateurs, c'est qu'une partie de cette mouvance se radicalise.
Et pourquoi elle le ferait ?
Eh bien parce que quand on ressent un danger imminent et quand on juge que la sphère politique n'apporte pas les réponses adaptées, eh bien, on peut être tenté de durcir ses positions. Écoutez Blaise Mao, qui est rédacteur en chef du magazine ouzbek Erika. Il observe tout particulièrement ceux qui militent contre le changement climatique et il redoute la radicalisation d'une frange de ses militants.
Là, on est quand même dans un moment où on a affaire à des gens qui sont dans la désobéissance civile, qui revendiquent une approche pacifique. Le mouvement Extinction Rébellion, qui part d'Angleterre, est en train de conquérir l'Europe à grande vitesse sur de la non-violence. La jonction qui est potentiellement dangereuse, entre guillemets, ça serait le retour à de l'action directe, je dirais, sur des cibles très identifiées de la technologie ou du progrès technique. Sea Shepherd, c'est une action très directe, très radicale, très dangereuse pour les militants qui sont sur les bateaux, mais qui est vue maintenant de manière beaucoup plus acceptable, voire mainstream.
Robin des Bois.
Oui, il y a un côté Robin des Bois, qu'il n'y avait peut-être pas avant.
Ouais, donc il y aurait une plus grande acceptation dans l'opinion publique d'un discours plus radical sur la question écologique.
C'est ça, et ça entre une nouvelle fois en résonance avec l'air du temps, puisqu'on vient d'assister à la montée en puissance des écologistes lors du 2e tour des municipales. Maintenant, il faut tout de même rappeler ce qu'on disait au début. Le survivalisme est une nébuleuse, difficile à cerner, avec différentes écoles, individualistes ou altruistes. Autant d'écoles qui évoluent, qui mutent et qui parfois se rejoignent, mais qui dénotent une inquiétude croissante au sein de la population.
Oui, quelque chose me dit que de plus en plus de sociologues vont s'y intéresser. Bien, merci Philippe Reltien. Je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr ainsi que sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, on va reprendre les bonnes habitudes. Et vous pouvez aussi le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Dibert et à la technique il y avait Alix Barrois. Dans quelques instants, une spéciale Liban dans la librairie francophone. Emmanuel Kérad recevra Ibrahim Malouf et Zeyna Abirached depuis Beyrouth, s'il vous plaît. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.